Vous avez compris ? Pourquoi le dénombrement est périlleux ? Parce que tant qu'on est du nombre à l'abri du nombre collectif, on est à l'abri. Mais s'il faut savoir si chaque nombre correspond au nom, alors c'est un jugement qui met en péril. Est-ce que c'est clair ? Alors d'où l'ambivalence de sens de l'expression. C'est haut et troche. Ça peut vouloir dire, c'est le sens positif, élever la tête, l'honneur. Ça peut vouloir dire enlever la tête. Vous allez vérifier, vous avez compris ? Et je vais vous donner un exemple. Vous allez vérifier dans l'histoire de Joseph, lorsqu'il est dans la fosse, vous rappelez Tchabelsa, et qu'il a les rêves des deux ministres. Il emploie la même expression pour dire à l'un, Dieu va t'élever, le pharaon, bon c'est Dieu par le pharaon, le pharaon va t'élever, te remettre à ta place, et l'autre, le pharaon va t'enlever. Avec la même expression, c'est clair ? Vous voyez d'où vient cette ambiguïté ? Le jugement, c'est soit je suis confirmé dans mon honneur, dans ma prérogative, dans mon trône, on me rendra ma couronne, on me l'installera, soit au contraire, ma tête n'est pas digne de la couronne, on passe à quelqu'un d'autre. Il y avait une espèce de comptine. Dans les mouvements de jeunesse, je me rappelle, on disait comptez-vous, hein, et chacun donnait son nom pour savoir si tout le monde était là. Moi, je ne fais pas ça dans les mouvements de jeunesse. Comptez-vous, non ? Moi, je ne fais pas. Bon, vous avez oublié. Là ? Ou de gauche à droite. Mais par exemple, on était en varape là, sur les rochers. Alors, le premier de cordée voulait savoir tout le monde était là. Bon, comptez-vous, on voulait entendre les noms. Pas de problème, ça. Bon. Bon, mais vous prenez cette image. Alors, au début du livre de Ruth, il y a une allusion à cela. Vous avez vous-même les premiers versets du livre de Ruth. On fait allusion à une famille, sans donner les noms des différents individus, et dès qu'on commence, on donne les noms, et chacun est mort, chacun à son tour. C'est-à-dire, quand on est à l'abri de l'identité collective, on est protégé. Mais si on est interpellé à l'échelle individuelle, on passe en jugement. Alors c'est pourquoi il fallait donner une sorte de substitut de rachat. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Le rachat de sa personne, par le demi-shekel, qui était une sorte de corban, de sacrifice, de réparation du fait, je ne suis pas encore peut-être digne d'être. Vous avez compris le problème ? Chaque individu devait donner la même somme, de cette sorte de racheter cette partie de la personne qui n'était pas encore digne d'avoir le nom de cette personne. Voilà l'essentiel, c'est clair ? Mais alors on arrive à l'emishperotam, levetavotam, Bemispar Shemot, Kod Zahar, le Gulgulotam. Vous voyez, chaque mot est important. Je traduis. Donc, dénombrer toute l'assemblée des fils d'Israël par le nombre de leurs noms, tous les mâles, dont j'ai oublié de dire, selon leur famille, selon leur maison paternelle, par le nombre des noms, tous les mâles, selon, littéralement, par crâne, il faudrait dire par tête. Par tête, oui. Mais chaque individu compte. Et j'espère avoir suffisamment parlé de ça pour déjà le verset soit clair. Alors, je vais vous donner une indication que dans le Rav de Zahav, vous verrez le dernier verset du livre de Vaïkra, le livre qui précède Bemidbar. Ce verset dit ceci. « Elea Mizuot Asher Siva Hashem » Voici les commandements que Dieu a prescrits. Et Moshe à Moïse, et le béni Israël pour les enfants d'Israël, vers Sinaï, sur le mont du Sinaï. C'est le dernier verset qu'on a dit dans la dernière paracha qu'on a lu, Shabbat dernier. Et juste continue le notre verset à nous, il faut dénombrer chacun de ces enfants d'Israël. Ça se rattache à la question suivante. Pour quelle raison c'est à Israël que Dieu a donné la Torah ? Vous voyez, et en vue de quoi ? Par quel. Comment comprendre cela ? J'ai l'impression que j'en ai parlé au dernier cours avant de partir en voyage, ici. Non ? Vous avez une humanité considérable, et la Torah ne concerne qu'Israël. Et oui, j'en ai parlé pour dire que ceux qui pensent que la Torah est naturelle à l'homme sont des racistes. Ça veut dire que tous les hommes qui n'ont pas la Torah ne seraient pas des hommes. Ce qui est faux. Oui, non, la Torah n'a jamais parlé comme ça. Il y a des raisons particulières qui font que c'est à Israël que la Torah a été donnée. Et j'ai jamais compris comment des gens pieux peuvent penser des choses aussi monstrueuses. que Dieu aurait décidé de créer une immensité de robots et puis un petit groupe d'hommes turbulents d'ailleurs, qui seraient eux seuls les hommes, Israël. Je ne sais pas si vous voyez celui-là. Vous voyez, là. Dans beaucoup de chiots, de temps en temps, ces choses épouvantables, les goïms n'ont pas d'âme. Et quand c'est prononcé à l'Ashkenaz, c'est-à-dire que ce n'est pas des hommes. Âme, c'est Sfarad. Homme, c'est Ashkenaz. Et alors, c'est les ch'tours. En Sfarad et en Ashkenaz. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils manient par là. Est-ce que c'est clair, ce que vous dites là? Mais la question est, pourquoi cette Torah est donnée à Israël? Alors, nous allons lire cette Derasha. Je vois alors, pour savoir comment organiser le temps. Quelle heure il est? 8h30. Ah, donc on a le temps, hein, jusqu'à 8h. Alors vous allez prendre le texte et on va le lire attentivement. Énormément de thèmes auxquels on va faire allusion. Je vous les signale en passant. S'il y a un thème que vous demandez pour lequel vous voulez des précisions, avec moi. Alors on commence ici en bas, je vous ai marqué un trait. Bas Midrash. Ah oui. Je vais d'abord vous parler du Rav Gilizahav, son grand commentaire sur la Torah, qui s'appelle Gilizahav, ça veut dire, c'est une expression qu'on trouve dans le livre d'Esther. Lorsqu'il y a la description du palais d'Assuérus, Gilizahav, c'est que les montants des lits étaient en or. Torsade. Une minute, il fait tellement... C'est encore le charab? Ah oui, oui. Bon. Et pour étudier, il faut un arabe, mais le charab. En tout cas... J'ai étudié ce livre avec le Rav Kook, Zichron et Bracha. C'était un des grands maîtres du judaïsme de Roumanie. Et il a enseigné l'ensemble des Pirushim de la Torah dans le Ruach, dans l'esprit du mouvement sioniste religieux, et en fonction de l'État d'Israël, qui bien entendu en ce temps-là est encore un rêve. Donc c'est un livre extrêmement important. Je vous conseille, alors, si vous arrivez à le trouver, de l'acheter et de préparer la... je ne sais pas lire en yiddish, mais... Bon, il s'appelait Moscovitch. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est édité dans une maison d'édition Betfus chez le Meir Lev Hirsch, Satmar, Roumania. Un Satmar, comme il dit. Ah, c'était là-bas? Eh bien oui, mais ce n'était pas des Hongrois.
Mais quand c'est
la c'est Hongrie, ah bon. Mais je les ai connus comme hongrois, moi. Et alors, il y a une légende, je ne sais pas si une légende, c'est réel, que Satmar, c'est une petite bourgade là-bas, qui s'appelait Santa Maria. Alors imaginez les Satmar. Bon. Alors, vous prenez en bas. Dans le Midrash, on enseigne. Vous garderez d'ailleurs la page, ce que ça intéresse. Vous voyez, il donne de temps en temps des références dans la Gemara. Vous rechercherez vous-même les références. Dans le Midrash, Béchara, c'est que lui, Israël est à Torah. Au moment où Israël a reçu la Torah, Nidkan ou Baem ou Mota Olam, toutes les nations du monde ont été jaloux de Amrou. Et ils ont dit, Maraou Elou, Leit Kare Bioter Mikola Umot. Qu'est-ce qu'ont vu cela, Israël, de s'approcher plus que toutes les autres nations? Nous rattacherons ça à la question générale. Quel lien il y a entre la Torah et Israël? Et surtout avec cette question, et pourquoi pas les autres? Je ne sais pas si vous avez entendu le Kaddish de Berditchev. Un très beau Kaddish, j'ai entendu un Yiddish, par le Rav Poliatchek, Zichron Livracha. La première année d'Orsay, juste après la guerre, tu es venu me chanter ça. C'est le rave de Berditchev qui convoque Dieu au Beit Din. En lui disant, explique-nous pourquoi nous, on souffre tellement. Et puis, en plus, pourquoi tu ne t'adresses qu'à nous? c'est toujours Daber el Béni Israël, Tzav el Béni Israël, Emor el Béni Israël. Alors tu as des grands peuples, tu as les Romains avec leur César, les Russes avec leur Tsar, les Allemands avec leur Kaiser, c'est la même chose d'ailleurs, tout ça, et la France avec ses Tsarot, ses Tsarfat. et puis, toujours Israël. Alors le bon Dieu, je paraphrase un peu, le bon Dieu qui dit au rab, tu veux que je m'adresse aux autres? Alors là, le rab intérieur, non, je sais pourquoi tu t'adresses à nous. Parce que eux reconnaissent leur roi, mais nous reconnaissons Melech, Malchim, Melachim, Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une différence, finalement, qui n'est pas perceptible si on n'est pas vraiment, si on ne fait pas partie de cette identité qui s'appelle Israël. Vous savez, Israël, c'est un rassemblement d'individus, ils sont tous Israël, d'après la halakha. N'ayez aucun doute à ce sujet. Okay? Mais il y a des tendances que la Torah a racontées qui sont extrêmement bizarres. Je veux dire, par exemple, vous avez une humanité entière qui considère ce pays comme sa terre sainte. Mais vous avez dans le peuple juif une bonne majorité de juifs qui considèrent aussi comme sa terre sainte et que ça. Alors que c'est la patrie d'Israël. Vous avez des juifs qui n'ont avec Eretz Israël qu'une relation soit de tourisme, soit d'archéologie. Et de terre sainte, mais de loin. Et alors, c'est vrai ou pas? Ça explique d'ailleurs tout ce qui nous arrive, et le reste. Et alors, il faut voir les choses en face. Par rapport à la Torah, c'est la même chose. Il y a des juifs qui considèrent que la Torah, c'est une confession religieuse, comme les autres ont des confessions religieuses, nous aussi. Alors ils s'inventent des communautés consistoriales. Bon, c'est-à-dire qu'on est français toute la semaine, et le Shabbat, quelques heures dans la journée, on est juif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ils appellent ça Torah. Et puis, par rapport au peuple juif, ils ne considèrent pas du tout tous les membres du peuple juif comme des juifs à part entière. Vous savez, il y a deux sortes de juifs. Il y a les juifs à part entière et les juifs entièrement à part. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, je me rappelle du temps où, à Strasbourg, eh bien, les juifs strasbourgeois considéraient les juifs polonais comme tout juif. Ça a changé depuis. Il y a des réalités démographiques.
Je pensais, à la morgue des juifs allemands par rapport aux juifs de Pologne, mais pas
oui.
Les juifs
non. Mais, dirais plus, toi t'as connu ça, les foresteros. Qu'est-ce que c'est? Non. Les juifs espagnols. Ah, donc, quand ils parlaient des juifs algériens, ils avaient les étrangers en espagnol.
C'est les extranjeros et les judéos aussi.
Tu te rappelles?
Ils n'aimaient pas les juifs.
Oui.
Les juifs.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Bon. En tout cas, pour revenir au sujet. Tu vois, on s'est vengé, on les appelait Spanier Kralia. Et qu'est-ce que je disais? Vous voyez, si on se réfère à l'entité peuple juif, il y a des doutes. Si on se réfère à la Torah, il y a des doutes. Si on se réfère à Eretz Israël, il y a des doutes. Enfin, ceci dit, c'est Israël qui est Israël. Les juifs n'arriveront jamais à comprendre ce que ça signifie pour les Goïm. Il y a une exclusivité du peuple élu qui est un mystère pour eux. Mais il faut admettre que c'est un mystère pour nous aussi. Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il a choisi ces gens-là, qu'on appelle les Juifs. Est-ce que c'est clair? Non, mais c'est vrai. Alors, chaque fois que je reviens à ce verset, et Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Alors, je pense à ce Kaddish de Berlichet. Et alors, mais je vous ai raconté une fois un midrash que j'ai inventé là-dessus. Oui, je vous rappelle, il ne faut pas inventer des midrashim, c'est interdit. Non, mais c'est pédagogique. C'est qu'un jour, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Alors, il s'est demandé par qui je commence. Et puis, il y a une idée de génie. Il dit, je prends le peuple le plus difficile. Si ça marche avec eux, je fais passer les autres. Mais tout se passe comme si, c'est comme ça. Il n'y a pas un peuple plus... Je ne sais pas comment dire. Bref, c'est le peuple saint. S-A-I-N-T. Mais il faut bien savoir qu'on se divise en deux. Les saints et les saufs. Mais quoi qu'il en soit, comme disait mon ami André Chouraki, ce peuple élu, il est très souvent en ballottage. Et c'est vrai, on est ballotté par les événements. Bien, alors je reviens au sujet. De quoi je parlais? Ah oui, et pourquoi la Torah et Israël? Troisième ligne. Amarlem Makazobahu, alors Dieu leur a dit, Heviyu Sefer Yochasin Shelachem, apportez vos livres généalogiques. Keshem chez Meviim Bnei Israël. De la même manière que les enfants d'Israël, quand on les convoque, ils arrivent avec leur dénombrement, avec leur nom, avec leur généalogie. Comment on dit ça? Il y a un mot en français. Ceux qui font des recherches généalogiques, comment ça s'appelle? L'arbre généalogique, mais comment ça s'appelle? C'est pas le cadastre. Le cadastre, c'est les territoires. C'est un nom, mais j'ai oublié. Hein? Non, droit de vie. La civile, c'est les archives de la mairie. Non, mais un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, et ça remonte au bourgeois de Calais. Comment ça s'appelle ça? Généalogie, si vous voulez. Chez Nehemar, d'après un des versets, qui dit Vaïtia les doux, les mishperotam, les vetavotam. Ils se filièrent, il y a la filiation à leur famille et leur maison paternelle. La midrash au maire d'Arsouni. Mais ce midrash demande à être étudié. Alors, Zira Makazoukou, allez, aimer le ratou le kabla. N'est-ce pas qu'on sait d'autre part que Dieu leur avait proposé la Torah et qu'ils n'ont pas voulu l'accepter, de notre midrash. Okay? Et vous en avez référé en arabe de Zara. Voilà ce raisonnement. Le midrash nous dit que les Oumont Aolam se sont étonnés. Pourquoi cette préférence pour ce peuple élu, entre guillemets, et nous, on n'existe pas? Alors le Rav dit, mais c'est étonnant ce midrash, puisque nous savons d'autre part que Dieu leur avait proposé avant Israël, et ils ont refusé. Alors la raison pour laquelle les Goïm, les Oumont Aolam, les nations du monde ont refusé la Torah, c'est un autre sujet. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir d'en parler, mais on a étudié une fois. Pour quelles raisons ils ont refusé la Torah? Ce n'est pas par mauvaise volonté. Ils voudraient bien. Seulement la Torah demande un genre de vie dont ils sont incapables. Parce que et chaque peuple, c'est pour un commandement, pas pour l'ensemble. Le reste, ils seraient prêts à l'accepter. Mais chaque peuple, c'est pour un commandement avec un diagnostic extraordinaire que le Talmud établit. Leur manière d'être ne permet pas d'accepter cette mitzvah. Je vous donne deux exemples. Ismaël demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah. Et Dieu lui répond, tu ne voleras pas. Il dit, je ne peux pas. C'est mon métier. Et pas à moitié, à poitié. Et effectivement, il dit, c'est la bénédiction de mon père. Abraham l'a béni en disant, Yado Bakol, Yad Kolbo. Sa main sera sur tout. Et c'est en train systématiquement, ils mettent la main sur tout. Mais on oublie la fin du verset. Mais la main de tout sera sur lui. Yado Bakol, Yad Kolbo. Je vais quand même vous donner un pirouz de la Kabbalah là-dessus pour vous rassurer. Parce que vous savez que c'est le raz de marée. Eh bien, il y a le flux, mais le reflux. Okay. Le prix à payer, c'est on demandera à Rabine de payer la note quand on réglera les comptes avec Pérez. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, et Esaü, lui, il demande, et qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Il dit, tu ne tueras pas. Il dit, je ne peux pas. Et mon père m'a béni en disant, tu iras de ton épée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'épée, ils l'ont retournée, ils ont fait une croix. Vous avez remarqué? Et c'est vrai, comme disaient les curés, le goupillon et le sabre. Le sabre et le goupillon. Mais j'ai rien inventé. Hein. Et la civilisation occidentale qui sort de Rome, dans la religion et la religion d'amour, c'est la civilisation de la guerre. Elle a mis le monde à feu et à sang. Parce que quand les barbares se font la guerre, c'est une guerre de barbares. Mais quand les civilisés se font la guerre, c'est terrible. Où ça mène? Ça mène à Auschwitz, ça mène à Hiroshima. Et pendant que le président des États-Unis joue au golf, ça mène à la guerre du golf. Et nous, on mène le masque à gaz. Vous rappelez de cette histoire? Vous rappelez de Bush et Zebusha? Ils jouaient au golf pendant... En tout cas, pour revenir au sujet. Le verset dit ceci, Yado Bakol, Yad Kolbo. Or, les trois patriarches ont trois bénédictions différentes. La bénédiction d'Abraham s'appelle Bakol. Vous retrouverez les versets. La bénédiction d'Isaac s'appelle Mikol, et la bénédiction de Jacob s'appelle Kol. Bakol, Mikol, Kol. On lit ça dans le Bechir Mazon Ashkenaz. Okay? Alors, Ishmael, Yado, Bakol. Sa main s'attrape à Abraham, qui est Bakol. En se réclamant d'Abraham, il fait ce qu'il fait. Tandis qu'il y a de Kol, mais la main de Jacob sera sur lui. Quand Jacob devient Israël, Ishmael disparaît. Il faut le temps. Mais, alors n'oubliez pas la fin du verset. Okay?
Pas de frère grâce à Israël.
Pas de frère
grâce à Israël.
Non, je ne voulais pas parler de ça parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais c'est Jacob qui est l'antagoniste d'Israël. Le rival d'Israël, c'est Ishmael. Mais c'est Jacob qui est l'antagoniste d'Ishmael. Et c'est Esaü qui est. Et c'est Isaac qui est l'antagoniste d'Esaü. Je vais vous dire ça rapidement. Et vous voyez, j'en profite pour vous dire, si vous connaissez un sujet, et vous voyez que je parle que d'une partie, ne m'interrogez pas, parce que ça prend du temps. C'est intentionnellement que je l'ai fait. C'est que, regardez, le conflit entre Ishmael et Isaac porte sur la terre, alors que le conflit entre Jacob et Esaü porte sur le ciel. Il y a un verset très clair où Esaü dit de Jacob, les jours de deuil de mon père Isaac arriveront et je tuerai Jacob. C'est-à-dire, tant qu'Isaac est vivant, Esaü peut rien contre Jacob. Effectivement, Esaü, la chrétienté, a failli détruire le monde juif chez elle, par l'assimilation. Et ce monde juif n'a été sauvé que par l'enseignement de la Kabbalah qui vient des Sfaradim. Alors les Sfaradim, c'est les juifs d'Ishmaël, qui sont chez Ishmaël. C'est clair? On croit que les Sfaradim, c'est des Espagnols, mais les Sfaradim, c'était les Juifs des Arabes traduits en espagnol. Il n'y a aucune œuvre originale du Moyen-Âge espagnol qui est en espagnol. Tout était en arabe, et ça a été traduit en espagnol. Il y a une seule œuvre en ladino, et très tardive, c'est Meram Loez, qui était un commentaire de la Torah, que je vous conseille d'ailleurs d'étudier, il a été traduit en hébreu récemment. Mais, Kira, et en français, par contre. Hein? Bon, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment une somme de commentaires dans le Meram Loez. Mais dans tous les cas, sachez bien que le judaïsme sfaradi, c'est un judaïsme judéo-espagnol, c'est un judaïsme judéo-arabe. Hein? C'est clair. Les sfaradim sont les juifs qui vivaient chez Ishmael. Les ashkenazim sont les juifs qui vivaient chez Esa, chez Esaü, chez les chrétiens. C'est clair. D'ailleurs, ça explique la différence qu'il y a entre ces deux manières des juifs. Leurs goyim n'étaient pas les mêmes. Et leur conflit avec le monde extérieur n'était pas le même. Ishmaël admettait qu'Israël est Israël, mais il refuse la terre. Il a dit que ça continue. Hein? Il n'y a que les Ashkenazim qui ne comprennent pas ça. C'est les Ashkenazim qui ont donné la terre aux Arabes avec la complicité des Sfaradim qui imitent les Ashkenazim. Ça s'appelle chasse. Hein? C'est des Sfaradim déguisés en Ashkenazim, ceux-là. Hein? Mais un jour, on leur enlèvera le déguisement. Il y avait une caricature il n'y a pas longtemps. C'est sur la Mitaloni qui m'a rendu question. En tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez que Isaac, par rapport à Ishmaël, n'a jamais pu garder la terre. Il a fallu que le judaïsme Ashkenaz, Jacob, vienne pour que la terre soit reconquise sur Ishmaël. Est-ce que c'est clair? Le sionisme politique est sorti des juifs Ashkenaz. Les Sfaradim ont donné un coup de main. Mais qui a fait cela? C'est les Ashkenazim. Est-ce que c'est clair? Alors que, du point de vue spirituel, c'est l'inverse. La Kabbalah s'est sortie des Sfaradim, et pas des Ashkenazim. Est-ce que c'est bien compris? En fait, c'est schématique, mais retenez bien ça. Donc c'est Isaac qui est l'antagoniste de Esaü, et c'est Jacob qui est l'antagoniste d'Ishmaël. C'est bien. Bon, alors on revient à notre sujet, mais je vois qu'on est juste au début, vous allez étudier tout seul. Quelle heure il est? Alors, je vais vous dire l'essentiel. Non, vous allez étudier. On va lire et vous étudiez la suite. Ou alors, si vous voulez, rappelez-moi, la semaine prochaine, on recommence ça. C'est un sujet très important. Vidbaer Bekdem, Birokatou. Alors, vous avez compris la question du Rav sur le premier Midrash. Pourquoi les Goïms se plaignent que c'est à Israël que la Torah a été donnée? puisque ils ont, on leur a proposé, ils l'ont refusé. Et il faut introduire ça par l'explication du verset. Un verset qui est dans les prophéties de Bilam. Bilam, lorsqu'il voit le camp d'Israël, il est appelé pour les maudire, il est obligé de les bénir. Alors, il y a ce verset, entre autres, qui « Mes roches sourient, mes reines, car je le vois du haut des rochers. » Et ça explique, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu les maudire, il est obligé de les bénir. Alors, on va nous expliquer par un autre midrash que les pères d'Israël sont appelés les rochers, Tsurim, Harim, et les mères, Gevaot. Les patriarches sont comparés à des montagnes, et il y a des versets pour ça, et les mères, les femmes du patriarche sont comparées aux collines. Mais, Alpi, selon la dracha de Alpi Mahamaram, selon ce que nos maîtres ont enseigné dans le Talmud, Avotenu Akuri Mayu. Nos pères étaient stériles. En fait, cette stérilité, le mot est faux, hein, il n'y a pas d'autre mot en français. Alors je dis stérile. En fin de compte, ils ont enfanté. S'ils étaient vraiment stériles, ils n'auraient pas enfanté. Mais c'est, disons, une stérilité provisoire. En fait, cette stérilité est surtout enseignée pour les mères. Que c'est chez Sarah, Léa, Rachel, que ça tarde l'enfantement. Mais il suffit qu'Abraham prenne Agar et remplit la terre de la Ligue arabe. Etc. Elle veut dire, donc c'est un autre thème. Mais la dracha se porte sur un verset un peu difficile, mais que je vous traduis rapidement. Habitu el tzur chutzatem. Dans une des exhortations de Moïse, dans le livre de Devarim, le verset dit, regardez, contemplez, rappelez-vous, mais rattachez-vous à, au rocher duquel vous avez été sculpté, si j'ose dire. Bo makabat, bo nikartem. Et de la fosse de, du puits où vous avez été enfanté. Là, on verrait dans Yevamot, il vous donne toutes les références. Akavana, l'intention de cette dracha, c'est qui a avot vaimaot loayu reuim neolid mitzalateva. Les pères et les mères d'Israël ne devaient pas, n'étaient pas aptes, donnés à enfanter naturellement, par l'engendrement naturel. Kedela asot mechitsa. Afin qu'il y ait une rupture absolue, une mechitsa, comment on appelle mechitsa en français, séparation. C'est plus qu'une séparation. C'est ce que les orthodoxes mettent pour séparer les hommes et les femmes à un mariage. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça s'appelle la mechitsa. Et alors, le Rav explique. Il fallait qu'il y ait une nouvelle humanité qui surgisse de l'humanité. Que ça ne soit pas la suite des engendrements précédents. Parce que c'est une nature radicale, une nature humaine radicalement nouvelle qui devait arriver. Du point de vue de l'être naturel, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a fallu que son être soit transfiguré pour qu'il puisse enfanter. Enfanter de Sarah. Parce que de Hagar, il a pu, tout en étant Abraham, avoir un enfant. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, les engendrements qui sont cherchés là, qui mèneront à l'identité Israël, qui recevra la Torah, ne sont pas de même nature que ceux qu'il y avait avant. Chez lui, il y a de l'Egizam, Shum, Itihasut, Imarishonim. De telle sorte qu'il n'y a aucune référence avec les générations précédentes. Bishwin, chez Efsek, Shalsholeta Yehuz, mais à Dorot chez Ifnehem, afin qu'il y ait une interruption des dynasties de la filiation par rapport aux générations qui les ont précédées. Ve'aholada chez l'Uma israélite, et la mise au monde de la nation d'Israël, c'est un des premiers auteurs qui, pour parler des Juifs, dit israéli. C'est bien avant que la Médina d'Israël a reçu le nom d'Israël, l'empreinte du Maharal d'ailleurs.
Oui, c'est parce que justement, en
lisant
le Maharal, j'ai l'impression
qu'il est déjà utilisé. Le Maharal, oui, c'est ce que je viens de dire. Tiye, Tolada Hadasha, qu'il y ait un engendrement, un enfantement nouveau. Tolada Nisi, un engendrement de l'ordre du miracle, pas de l'ordre de la nature. De Abraham, d'après ce qu'ils ont enseigné, nos maîtres, sur le verset concernant Abraham, quand Abraham demande, mais tu me promets un enfant, mais il ne vient pas. Alors, Vayotzi, Oto Achutza, le fit sortir, le pshat, c'est de sa tente pour lui dire, regarde les étoiles, tu verras, si tu peux les compter, ta descendance sera aussi nombreuse. Alors que Abraham ne voit rien, mais il a foi dans le fait que Dieu l'a dit, tu auras une descendance, et de Sara, elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Et alors le Midrash explique, il l'a fait sortir, de, non pas de sa tente pour regarder les étoiles, mais de son horoscope. Ça veut dire, d'abord l'explication d'après le verset, Habet na shamaima, contemple le ciel. Mais le mot de Habet, c'est contempler de haut en bas. C'est-à-dire, il l'a fait sortir du monde, au-dessus du conditionnement cosmique du monde. Je dis, sors de ton conditionnement naturel. Otio, mais istagninut, de ton thème astral, c'est istagninut, astrologie, chez l'autre, le mala minamazal, au-dessus des constellations. Romero, koezaracha, il le dit, ainsi sera ta postérité. Le mala minamazal. Il faut bien comprendre qu'Abraham commence à être Abraham par le fait qu'il ait cette manière d'homme, d'être homme qui est différent de tous les hommes, qu'il est hors du conditionnement naturel. Retenez cela, que l'histoire de la société d'Israël ne s'explique par aucune des lois qui expliquent toute sociologie de toute société. Et tout le monde essaye de réduire les lois de la société d'Israël aux lois sociologiques des autres sociétés, et ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on est frappé. Ce pays, on ne sait pas comment il marche, mais il marche. Ne serait-ce qu'au niveau économique. Je connais beaucoup d'économistes non-juifs qui disent « on ne comprend pas ». Normalement, votre économie ne veut pas marcher comme ça. Il y a ces dernières années, il y avait une crise partout, sauf en Israël. Vous vous rappelez de cela, hein? Et effectivement, il n'y a pas seulement cela. Il y a énormément de faits sociaux d'Israël qui ne ressemblent à rien dans les autres sociétés. Le seul fait qu'on puisse vivre ensemble, faire vivre ensemble dans la même société, des hommes provenant de toutes les manières d'être hommes du monde, tous les paysages humains du monde et tous les siècles. Et il n'y a pas de problème. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Rav Meshulam à Yehoud. C'est inventé par le gouvernement, cette histoire-là, pour faire abcès de fixation sur le droit de l'armée ou de la police de tirer sur des juifs. D'ailleurs, c'est arrivé. Hein? Je connais pas personnellement, mais je connais l'affaire Meshulam. C'est un homme dont le tempérament est ce qu'il est. J'ai rien dit. Hein. Bon. Le dossier qu'il veut défendre est un dossier important qui serait capable de déshonorer tout le gouvernement d'Israël. Et alors, bon, l'établissement, comme on dit, a intérêt à le faire taire. Seulement, malheureusement, il s'y prend de manière telle qu'il met les torts de son côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je reviens. C'est un dossier grave, hein, le dossier dont il parle, et tout le monde est en pleine panique dès qu'on parle de ce problème. Des enfants yéménites ont été pris et vendus, bref. Et alors, on ne les retrouvera pas, mais on les connaît, les coupables. Ça ira mal pour l'agent juif. Bon, c'est notre problème. En tout cas, tous les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour étouffer cela. Et regardez comme on a inventé une affaire particulière en mettant un bataillon de policiers pour faire abcès de fixation, pour qu'on ne pense pas à ce qui se passe ailleurs, à Foula, Khedera ou ailleurs, et qu'on pense au scandale des religieux nationalistes de type Meshulam. Alors que lui, il est yéménite d'abord. Et son problème est yéménite. Il n'a rien à voir avec le problème des Mitnachalim. Je pense que c'est clair. Okay? Bon, je reviens au sujet de quoi je parlais, oui. Une société qui fait vivre ensemble toutes ces manières d'être hommes différentes. Il n'y a aucune société au monde où c'est possible. Quand même dire l'Amérique, c'est un melting pot, mais jamais les Américains ne se considèrent de minorité à minorité comme les Juifs d'Israël se considèrent en tant que citoyens israéliens. Je ne sais pas si vous voulez le dire. Je me rappelle... je me rappelle quand on a accueilli les Juifs éthiopiens. Bon, indépendamment des bourdes et des bavures que tous les fonctionnaires du monde savent faire, Indépendamment de ça, le monde entier était stupéfait. On les a accueillis comme des juifs. C'est pas comme des blancs qui accueillent des noirs. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et alors, je me rappelle mes conversations avec les Africains. Ils étaient complètement tourneboulés. On n'a jamais vu ça. Mais vous êtes blancs et vous les accueillez comme des frères. C'est possible. Imaginez. C'est pas ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, pour dire que, effectivement, c'est une société à part. Il y a une identité qui nous vient d'Abraham qu'on peut acquérir. On peut devenir fils d'Abraham en Israël, en rentrant en Israël. Mais c'est cette identité-là qui est à part de l'identité des Goïms. Alors voilà, vous étudierez ça, mais bon, je vous propose, parce que c'est trop important, la semaine prochaine, vous allez laisser les feuilles, là. Parce que si je vous dis de les prendre, vous n'allez pas les étudier. Alors, vous allez les prendre pour ne pas les étudier, mais vous les ramènerez. Hein. Vous avez vu avec quel empressement on les rend. Et puis la semaine prochaine, on reprend. Bien, alors on va rester pour Mignane, si on est Mignane pour la...